Bonjour, Françoise Trossard et la belle équipe sur France Culture jusqu'à 13h58. On se retrouve pour la suite de notre émission spéciale anniversaire 30 ans des Papous, à podcaster pour vos collections. Un anniversaire fêté en public au studio 104 de la Maison de la Radio, dimanche 30 novembre devant une salle comble. Et comme l'écrit et le publie en photo sur notre page Facebook Serge Joncourt, nous étions 900 le matin, 900 l'après-midi à souffler les bougies. Alors j'avais envisagé l'hypothèse d'un gâteau d'anniversaire et opté finalement pour un tableau d'anniversaire, un grand format peint toute la journée de ce beau dimanche par Ricardo Mosner, accompagné en musique par Pablo Gignoli et Sébastien Volco. Un Argentin à Paris ne se déplace jamais sans sa bande d'Argentins. Un tableau découpé par notre peintre Papou en 30 parts égales en fin d'après-midi. 30 parts de tableaux, l'eau de notre tombola des 30 ans. Les photos à découvrir sur franceculture.fr et sur Facebook, ainsi que les petites vidéos choisies par l'équipe qui a filmé toute cette journée, à garder précieusement. On n'a pas tous les jours 30 ans et c'était la première fois qu'un de nos anniversaires était fêté officiellement, chaud au cœur. Et quand vous avez chanté pour nous « Joyeux anniversaire », on avait des frissons. Un anniversaire fêté en deux récrés, deux fois deux heures, le matin et l'après-midi, avec la bande des Papous presque au complet. Dominique Muller, Patrick Beignet, Lucas Fournier, Jacques Bertrand, Eva Almassi, Gérard Mordillat, les Patrices Minet, Delbourg, Caumont, Jeanne Carillon, Violaine Schwartz, Jacques Jouet, Odile Conseil, Ricardo Mosner, Jacques Vallée, Nelly Kaplan, Jean-Bernard Pouy, Hervé Le Tellier et Serge Joncourt. Et nous étions accompagnés en musique et en chanson par les Sardines, rencontrées à l'époque des Décraqués. Un été où nous étions tous les jours en direct du Festival d'Avignon. Elles chantaient Traînaient. Elles ont à nouveau chanté Traînaient pour nos 30 ans. On reprend le fil de cette journée en mélangeant à la Papou récré du matin et récré de l'après-midi. À Bertrand Jérôme, inventeur des Papous. Les Papous ont 30 ans, waouh ! C'est dimanche, c'est un joli dimanche parce que c'est notre dimanche des 30 ans et 30 ans c'est très jeune, donc on le fête avec plaisir. Et Jacques Jouet nous a écrit un joli dimanche pastiche, c'est le joli dimanche de Giuseppe Verdi. En italien Jacques ou pas?
Non, enfin en italien d'ici. Hein.
Ouais.
Donc ce morceau d'opéra est dédié à tous ceux qui... comme nous, doivent travailler le dimanche. Et ceux qui peut-être s'y préparent. Hein. Il est déjà 11h et je finis ma nuit. Je suis un gros dormeur, même quand il y a du bruit. Je vais commencer ma sieste dès que le brunch est fini. Dormir, c'est plus digeste, c'est mon vice impuni. Ça, c'est le joli dimanche, sur la semaine, c'est la revanche. Je vais m'en payer une tranche de dimanche. Il est déjà 5h, je vais me prendre un petit goûter. Des chouquettes, des liqueurs, puisque c'est l'heure du thé. Après ça, un petit somme de fin d'après-midi. Je suis du genre économe, du boulot qui détruit. Ça, c'est le joli dimanche, sur la semaine, c'est la revanche. Je vais m'en payer une tranche de dimanche. Il est déjà 20h, où qu'est mon pyjama? Mais que chicon seigneur, je l'ai gardé sur moi. Il est temps de rejoindre la couette et l'oreiller. Ça y est, la nuit va poindre, on va se mettre à bâiller. C'était le joli dimanche, sur la semaine c'est la revanche. Je m'en suis payé une tranche de dimanche.
Je vous présente Nelly Kaplan. Nelly Kaplan, elle nous a été... Elle nous a été présentée par François Karadec, un papou historique. Un jour, il nous a dit, Nelly Kaplan, elle écoute les papous, elle aimerait bien jouer avec nous. Et on l'a adoptée, et donc elle joue avec nous, Nelly Kaplan. C'est la fiancée du pirate, c'est un rôle qu'elle avait offert à Bernadette Lafont, mais c'était un très beau cadeau, Nelly, évidemment. Mais la vraie fiancée du pirate, c'est vous, non ?
À mes heures, oui.
Ouais. Et alors, c'est la seule parmi tous les papous à avoir la Légion d'honneur. Et on n'est pas peu fiers pour ça. Non, non. Et Nelly Kaplan, elle a fait l'inventaire de ses refus. Alors, on l'écoute.
C'était pas facile parce qu'un inventaire, il faut l'inventer. Mais allons-y. Je n'aurais pas aimé être Tirésias, car j'ai horreur d'allaiter. Je n'aurais pas aimé être Salomé, car à force de danser nue, on finit par s'enrhumer. Je n'aurais pas aimé être la Sulamite, car le sang de miel colle au soutien-gorge. Je n'aurais pas aimé être la Vierge Marie, car elle a raté les meilleurs. Merci. Je n'aurais pas aimé être Gustave Flaubert, car Madame Bovary, c'est moi. Je n'aurais pas aimé être Saint-Just, car Robespierre ne connaissait pas l'usage de la vaseline.
C'est pour ça qu'elle a eu la Légion d'honneur, non ?
Je n'aurais pas aimé être un testicule, car je me méfie de la duplicité des jumeaux. Je n'aurais pas aimé être la table de la loi, car j'adore convoiter le mec de ma voisine. Je n'aurais pas aimé être Eva Braun, car Adolphe l'avait toute molle. Je n'aurais pas aimé être Pénélope, car j'ai horreur de tricoter. Je n'aurais pas aimé être Saturne, car les enfants crus sont indigestes. Je n'aimerais pas faire l'imbécile, car le marché est saturé. Je n'aimerais pas avoir été César, car Brutus habite à côté. Je n'aimerais pas être un paratonnerre, car je me méfie des coups de foudre. Je n'aimerais pas être un morpion, car je déteste les jeux de société. Je n'aimerais pas être Vercingétorix, car nos ancêtres, les Gaulois, avaient la chevelure rance. Je n'aimerais pas être une bouteille à la mer, car pour les messages, je préfère aller à la poste. Je n'aurais pas aimé être ma mère, vu que j'ai très mauvais caractère. Je n'aime pas faire les 400 coups, car à partir des 300, je fatigue.
C'est le moment chronique avec Jacques Abertrand. Jacques Abertrand, il aime bien parler des sales types. C'était des chroniques pour les papous. Il aime bien parler des petites bêtes. Et puis, il a écrit un roman, très, très joli roman, son plus récent. C'est « Comment j'ai mangé mon estomac ». Et on est très fiers de lui parce qu'il est le seul parmi tous les papous depuis 30 ans à avoir obtenu le prix « Parole de patient » et le grand prix littéraire de l'Académie nationale de pharmacie. Ah bon. et vous nous parlez des journées d'eux, par exemple les journées des papous.
Aujourd'hui, c'est une journée vraiment exceptionnelle. C'est une bonne journée, mais c'est rare.
Ah bon, les journées d'eux ne sont pas toujours terribles. Allez, dites-nous.
L'homme s'est toujours préoccupé de compter les jours. Il faisait des traits sur le torchis de sa case ou sur le plâtre de sa prison. 5 traits, dont 4 verticaux et un 5e horizontal. C'est dire qu'il savait déjà compter. L'homme a su compter bien avant de savoir lire. Une fois initié à l'écriture et à la lecture, étudiant les livres sacrés, il y découvrit que la semaine officielle avait 7 jours. Quelqu'un qui comptait encore un peu mieux que tout le monde décréta que la planète faisait le tour du soleil en 365 jours un quart. Et un tour sur elle-même en 24 heures pile, indépendamment du fait que certaines journées paraissent plus longues que d'autres. Avec sa fâcheuse manie de donner des noms à tout ce qui l'entourait, l'homme institua les jours de la semaine et un saint patron pour chaque jour de l'année. Mais il est dans sa nature aussi de s'ennuyer facilement, bientôt lassé d'appeler ses enfants Pierre, Paul ou Jacques, et Marie, Blandine ou Bernadette, il leur inventa toutes sortes de noms à l'orthographe improbable. Quand célébrer la fête de Saint-Del, de Zorane, d'Alizé ou de Liseron? C'est peu dire qu'on ne sait plus à quel saint se vouer. Et comme si tout ça n'était pas suffisant, il fut entrepris de vouer chaque journée à quelque chose ou à quelque idée. Chez nous, pour commencer, un vieux maréchal institua la fête des mères et celle du travail, pour inciter les Français à procréer davantage, d'une part, et d'autre, pour réfuter l'opuscule dans lequel un gendre de Karl Marx défendait le droit à la paresse. Ensuite, dans la lancée, pourquoi pas la fête des pères, des pépés, des mémés, des cousines germaines. Il est également dans la nature de l'homme de commémorer. La principale faculté de sa mémoire sélective étant la faculté d'oubli, il lui vint à l'idée de créer un nouveau calendrier pour penser à penser, un jour par an, à tout ce qu'il oubliera pendant le reste de l'année. Naturellement, il est difficile de penser à penser tous les jours. Cette année, j'ai encore oublié de penser à l'oubli lors de la journée internationale contre l'oubli. La liste de toutes ces journées vous donne le tournis et soulève une foule de questions. Par exemple, est-il permis de penser à l'Organisation des Nations Unies pendant la journée internationale de la diversité biologique? Durant la journée de la tolérance, doit-on tolérer l'intolérance?
Ah, la question, oui.
La journée du don d'organes implique-t-elle que chacun doive donner quelque chose? Il y a une journée mondiale des reins, le 11 mars, mais pas de journée de la vessie ou de la prostate. Est-il raisonnable de naviguer pendant la journée internationale de la montagne et d'attaquer la face nord de l'aiguille du Midi lors de celle des océans? On peut se demander à quoi penser précisément lors de la journée mondiale de la santé mentale. Et quelle résolution prendre le jour dévolu à la normalisation? Comment concilier la journée mondiale de la population, 11 juillet, et celle, 9 août, des populations autochtones? Les unes ne feraient-elles donc pas partie de l'autre? Quelle tristesse pour les personnes âgées, journée du 1er octobre, d'apprendre au petit matin du 12 août que c'est le jour de la jeunesse. Qui embrassait le 29 janvier, journée mondiale des lépreux? On déplore qu'il soit nécessaire d'ajouter une journée de la femme à la journée des droits de l'homme. Était-il indispensable de créer par-dessus une journée des familles? À quand la journée du divorce ou des familles recomposées? Si tous les orphelins du monde voulaient bien se donner la main, la journée mondiale de l'orphelinat n'y suffirait pas. On n'en voudra pas aux diabétiques de ne pas respecter la journée sans régime. Un seul jour de la Terre, alors qu'il en fallut 80 à Phileas Fogg pour en faire le tour. L'auteur Marie-Ange Guillaume, ayant allumé une cigarette en promenant son chien le matin d'un 31 mai, fut apostrophé par une dame qui lui fit aigrement remarquer que c'était la journée sans tabac. « Ah bon ?» répondit-elle. « Et la journée sans casse-couille, c'est demain ?» soucieux d'apporter ma modeste contribution à ce formidable calendrier, je proposerais que le 29 février des années bissextiles, s'il n'est pas déjà pris, devienne la journée de ceux qui ne voient pas le temps passer. On aura beau dire et beau faire, disait Alphonse Allais, il y aura de moins en moins de gens qui auront connu Napoléon. C'est bien vrai. De la même façon, on aura beau dire et beau faire, demain sera toujours un autre jour.
Patrice Minet, vous avez un point de vue sur les journées de...
Absolument.
On peut l'entendre.
Vous voulez le connaître ?
Oui.
Il est utile et peut-être nécessaire, voire capital, de vouloir supprimer les journées de. Mais on perd son temps à s'occuper des journées de. Des tâches autrement plus urgentes exercent une pression négative sur le bon sens. Ainsi, en oubliant les journées de, péché véniel de la commémoration, qui ne produisent leur nuisance que 365 jours par an au maximum, réfléchissons plutôt aux heures de. Les heures de sont infiniment plus néfastes et dévastatrices. Et je ne parle pas ici de la dernière heure. Mais l'heure du loup, par exemple, n'en voit jamais paraître un seul, même aujourd'hui dans les Carpates. L'heure de l'apéro qui nous précipite deux fois par jour, avant déjeuner et avant dîner, vers l'anisette ou le quinquina, devrait être marquée d'une pierre noire, etc., etc. On peut s'apercevoir que sur les 24 heures d'une seule journée, on n'échappe pas à l'obligation de commémorer quelque chose. L'heure du crime, l'heure de s'en aller, l'heure de s'endormir, etc., etc. Sans oublier l'heure de la récré qui expédie les gosses braillards dans les cours d'école, même à l'heure de la sieste des travailleurs. Mais des heures, il n'y en a que 24 par jour. Des minutes, il y en a 60 par heure. Minutes de vérité, minutes du greffe, sans oublier les 5 dernières minutes, ni la minute de silence, qui devrait aussi me faire taire. Je me souviens soudain, ô temps heureux, de la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, célébrée par Pierre Desproges, minute beaucoup trop courte, et dont la brièveté me fait encore souffrir. Minute, papillon, il reste les secondes. Doit-on célébrer aussi les secondes ? Dès les premières secondes, des dernières secondes qui se promènent n'importe où à l'intérieur des minutes et qui jouent avec ton air sans se soucier du temps qui passe. À la dernière seconde, il s'aperçut qu'il oubliait sa belle-mère sur l'aire de l'autoroute. Pour ne pas terminer sur un mode trop tragique, gardons présentes à l'esprit ces précieuses quelques secondes de bonheur qui, pour chacun de nous, constituent un anniversaire à fêter n'importe quand et dont on se souvient et qui nous soutiennent, même les mauvaises années.
Les sardines chantent traînaient a cappella. Il y avait des arbres.
Il y avait des arbres, des coteaux, des châteaux, et dans le ciel des oiseaux rigolos.
Il y avait des marbres par-dessus les tombeaux, et parfois même gravés des mots beaux.
Il y avait des vaches, des veaux et des taureaux, une vache qui mâche, c'est beau.
Ah, la route amie que j'avais faite ce jour-là, je ne pourrai jamais oublier ça.
Il y avait la pluie sur le toit de l'auto, quand une pluie est gentille, c'est beau. Il y avait les gouttes qui pleuraient au carreau sur une route qui doute, c'est beau. Et soudain des pompes qui donnaient de l'essau, une pompe qui pompe, c'est chaud. À la ce jour-là fut un amour poésie avec moi. Il y avait des phrases par-dessus les oiseaux quand une phrase t'extase, c'est beau. Il y avait la lune par-dessus les coteaux, mais une lune pas brune, c'est haut. Et dans la campagne, un vieux train qui passait à travers la montagne pressée. Des barrières de douane à jamais abrogées, et Dieu merci Saint-Antoine, c'est vrai. J'étais fou peut-être de comprendre cela, mais moi je ne suis qu'un être, oui, d'art. Ah, venez à moi, Apollinaire et Rimbaud, avec l'ami de ma joie, Charles Cros. Arc-en-ciel de rêve sur le toit de l'auto, ces instants qui s'achèvent sont beaux. Mais ce soir, en tête, j'ai ce vieux cinéma qui vient et qui me projette tout ça. Il y avait du charme, des orages trop gros, parfois aussi des gendarmes, héros, héros. Sortant ma voiture, n'importe quel niveau, une voiture qui dure, c'est beau. Poursuivant ma route, j'aperçois un logis où l'on casse la croûte aux bougies. Il y avait des fraises, des côtelettes d'agneau, une atmosphère Louis XIII.
Du vin chaud, doux, doux, doux. Il y avait Thérèse et de la Toulouse, une Thérèse à l'aise, c'est beau.
Où vas-tu, petite? Ton service est fini. Moi, je t'invite à venir dans ma nuit.
C'est déjà novembre, apporte encore du bon vin. Tout là-bas, dans ma chambre, c'est au vin. À l'amour ami que j'ai vécu ce jour-là, je ne pourrai jamais oublier ça. Je ne pourrai jamais oublier ça. Je ne pourrai jamais oublier ça.
Elle chante bien, Gérard.
Merveilleusement, je suis ébloui. Non, vraiment, je trouve ça extraordinaire. Je vais essayer de le faire moi-même.
Oui, alors voilà, c'est la petite difficulté pour vous. Il y a une grande marche. Alors, retour au pastiche avec vous, parce que vous avez une lettre inattendue, tout à fait inattendue, d'une personnalité d'une certaine époque à une autre personnalité de la même époque. Parce que c'est possible, cet échange de lettres,
oui,
a priori.
Absolument. Non, j'ai une lettre très belle de Youri Gagarine à Marguerite Duras.
Ils ont fait de l'avion ensemble, non?
Pas vraiment ensemble, mais ils se sont écrits. Il y a eu vraiment une correspondance. Et Youri Gagarine écrit « Cher camarade Marguerite Duras ». Alors, comme il écrit en cyrillique, on peut lire « Marguerite Dumas ». Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Votre lettre me parvient tardivement, oui, tardivement, d'une part parce que je suis actuellement en mission à plusieurs milliers de kilomètres de la Terre, d'autre part parce que mon nom s'orthographie Gagarine et non pas Margarine, ce qui a vraisemblablement égaré le facteur. Et je dirais que dans l'égarement du facteur, il y a quelque chose de notre propre égarement. L'égarement de l'homme est le facteur de cet égarement, son espace. L'égarement face à l'égarement des égarés. L'égarement, oui, son facteur, facteur de l'égarement. Qu'importe, je suis reconnaissant au camarade Aragon de vous avoir aidé à rédiger votre lettre en cyrillique. Tout n'était pas très clair, mais qu'est-ce qui est clair dans le tout ? La clarté elle-même n'est-elle pas le spectre de l'obscur ? Oui, l'obscur clarté qui tombe des étoiles, et je sais de quoi je parle. Clarté, obscurité, il faut le dire, le sentir en bouche, le dire lentement pour mesurer le rayonnement du clair à l'obscur. La clarté, oui, comme l'hebdomadaire du parti auquel vous devez être abonné, sinon je peux vous avoir un prix de faveur. Encore une fois, la clarté nous interpelle quelque part, selon que vous soyez en haut ou en bas. J'ai passé des journées entières dans les arbres dans mon enfance. Dans les arbres, dans l'espace des arbres, où le ciel se mesurait entre les branches. Oui, je m'égarais, je guettais le facteur qui nous annoncerait que nous avions enfin droit à un logement collectif. Espace, égarement, facteur, donc oui, il faut s'en souvenir souvent si l'on veut voir clairement ce qui est clair et ce qui est obscur en nous, en vous, nous, tel qu'en nous-mêmes le parti nous change. Mais me pardonnerez-vous d'avoir dû faire appel à notre service du chiffre pour décrypter certains passages de votre lettre, camarade Marguerite Dumas ? Me pardonnerez-vous vraiment ? Le pardon peut-il être clair ? Facteur de clarté ou d'égarement ? Mais laissons là ces petits détails. Laissons-les mûrir et s'égarer comme le facteur même de notre égarement. Je m'empresse de répondre clairement à votre question. Oui, je le dis clairement, oui, d'accord avec vous, il y a de quoi hésiter à mettre du papier à fleurs dans votre chambre au bord de la mer. Les fleurs peuvent être décoratives, mais aussi, à la longue, paraître oppressantes, voire menaçantes. La fleur est douleur quand elle est arrachée à sa terre, à son humanité. La fleur, dit-elle, c'est la femme pour qui sait l'écouter. La fleur a beaucoup à nous dire. La fleur, c'est la femme, c'est l'homme aussi. La fleur, c'est la tige, la corolle, le pétale et le pistil. Si je puis prendre mon exemple, dans mon Spoutnik, il n'y en a pas. Je suis espace sans fleurs, et ce manque me travaille. Peut-on être, mais être vraiment être, sans fleurs, sans la douleur de la fleur, sans l'égarement de la fleur égarée par le facteur ? Comme vous disposez, tout comme moi, d'une vue sur le large, je me permets de vous conseiller de renoncer aux fleurs pour mieux les dire, dire les fleurs en les renonçant et préférer un papier peint uni, couleur muraille ou bleu horizon. Salutations socialistes, camarade Marguerite, Yuri. Il y a un post-scriptum. Mes amitiés à votre père, j'ai beaucoup aimé les Trois Mousquetaires.
Évidemment, il tourne un peu en rond dans sa tête et dans l'espace, mais il a du style, cet homme. Il a du style.
Il a du style, voilà.
Jacques Jouet, je ne vais pas vous demander si vous êtes Marguerite Duras, j'y crois pas une seconde.
Je suis très attiré par les rôles de composition, mais,
oui.
Mais à ce point-là, non.
Vous êtes qui dans cette histoire ?
Je suis le facteur.
Ah !
Je suis le facteur, et vous savez, ce n'est pas une sinécure de transmettre une pareille correspondance. Nous sommes en 1961, les PTT ne reculant devant aucun sacrifice m'ont fait subir un entraînement intensif, spécial espace, car il faut bien que le courrier parvienne. Je vous parle d'un temps où le courrier, c'était sacré. Mais foin de passéisme passé de mode, je suis le facteur. Madame Duras a reçu la lettre de Yuri Gagarine, et que croyez-vous qu'il advint ? Camarade Gagarine !
Hein, oui, facteur, voyez bien que je suis occupé.
Camarade Gagarine, du courrier pour vous, c'est urgent.
Si c'est une carte postale, d'accord, mais j'ai des tâches plus importantes à effectuer.
Ah non, ce n'est pas du tout une carte postale, camarade Gagarine, c'est un colis.
Un colis ? Mais enfin, facteur, vous vous doutez bien que je ne peux pas rajouter plus de 20 grammes au Spoutnik. Enfin, ça ira pour cette fois. Combien il pèse, votre colis ?
C'est un gros colis, camarade Gagarine.
Des brocolis ? Quel brocoli ? Mais je ne peux manger que des saletés en tube.
Non, pas des brocolis, camarade Gagarine. J'ai dit un gros colis. Madame Duras voulait vous envoyer des fleurs.
Eh bien, remerciez-la de sa gentillesse et laissez-moi tranquille.
Mais camarade, il faut que je vous remette les colis en main propre. Il y va de ma conscience professionnelle.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans le colis, nom d'un petit Khrouchtchev ?
Des livres, camarade, des livres de Madame Duras.
Quoi ?
Les œuvres complètes de Marguerite Duras, ça s'appelle.
Ah non, 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 pas ça. Non, je n'ai pas mérité ça. Ah non, c'est une sanction du KGB. Non, c'est ma Sibérie à moi. Spoutnik ta mère, facteur. Terminé.
Et voilà, j'étais le facteur, je ne suis plus le facteur. Je n'ai pas réussi à acheminer le courrier de Madame Duras. Je ne peux pas rentrer au bureau de poste de Trouville. Je reste dans l'espace, sublime, forcément sublime. Quand un facteur s'envole, s'envole, s'envole...
Eva Almassi, vous êtes un peu notre Jacques Vallée au féminin. Vous râlez souvent pour des petites choses. Hein. Vous aimez pas les pains au chocolat, vous aimez pas les mugs. Il y a des tas de choses qui vous agacent.
Et les fermetures éclair dans
le dos. Et les fermetures éclair dans le dos même. Et vous êtes contre quoi, là, maintenant?
Là, je suis contre le dilemme.
Tout contre?
Tout contre.
Oui. Qu'est-ce qui vous a fait le
dilemme? Je suis contre le choix entre deux possibilités. Ceci ou cela, ou bien, ou bien. Je ne supporte pas. C'est un terrible piège. Et d'ailleurs, ça ne me réussit pas. Si je choisis pile, ça tombera fatalement sur face et vice versa. Mais j'aimerais vous donner un autre exemple pour vous prouver que j'ai raison de protester. Le phénomène concerne tout le monde. Vous voyez ces gigantesques rouleaux de papier de toilette dans les distributeurs, les grosses bobines. Oui. Rien ne se voit à l'extérieur, pas le moindre petit bout qui dépasse. Et vous devez choisir. Je tourne vers l'avant ou vers l'arrière. On essaye, sauf que c'est le genre de chien qui ne tire pas la langue. L'extrémité du papier n'apparaît pas. Ça tourne et même vite. Mais une fois engagé dans la mauvaise direction, le rouleau se rembobine et ça peut durer des heures. Et pour s'y mouver, la boîte métallique du distributeur de papier de toilette ressemble à s'y méprendre à une boîte noire d'avion. Elle ne livre son secret qu'après une catastrophe. À ce sujet, prenez le mariage. Vous avez choisi votre promis, votre promise, entre plusieurs milliards d'êtres humains. Mais là, tout soudain, devant monsieur le maire ou madame la maire, il faudra décider entre un oui ou un non. Pas d'alternative, un peu, beaucoup, passionnément, non. Pressons, pressons. Acceptez-vous de prendre pour époux, vie ou non, un tel? Et oh, de quoi je me mêle, monsieur le curé? La vie n'est pas aussi simple. Même à la roulette russe, il y a 6 balles. À la roulette du casino, je ne mise jamais sur père ou impair, manque ou passe, rouge ou noir. Ce sera forcément l'autre qui gagnera. Stendhal lui-même a refusé de choisir entre les deux. Il a pris le rouge et le noir. Allons, tout sur le zéro, quitte à perdre jusqu'à sa chemise, mais avec panache. J'ai une lampe double au-dessus du canapé avec 2 interrupteurs. L'abat-jour qui pointe vers le bas pour la lecture et l'autre vers le plafond. Je me trompe à chaque fois. Maintenant, j'allume les 2, j'inonde de lumière les ténèbres des probabilités. Mais les gros rouleaux de papier de toilette. Méfiez-vous, il y en a des comme ça à la maison de la radio et dans tous les cafés, les écoles. On ne saura les tourner dans les 2 sens à la fois. On tente, on retente sa chance, pourvu que la minuterie ne s'éteigne pas. Je n'aurais jamais pu être des mineurs. Quel fil coupé, le bleu ou le jaune? Boum! Il ne me reste qu'à relire « ou bien » de Kierkegaard.
Vous avez un point de vue sur les dilemmes, Serge Joncourt ? C'est intéressant,
oui.
Comme sujet. Hein.
Oui, c'est très intéressant. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Évidemment, je suis pour les dilemmes. D'ailleurs, rien que le mot dilemme. J'aime le mot dilemme. D'ailleurs, tout le monde aime les dilemmes. Même vous, chère Eva, vous connaissant, je suis bien sûr que vous avez longuement hésité entre les 2 exemples qui vous permettraient d'illustrer votre aversion pour le dilemme. Les 2 exemples, donc le rouleau hygiénique indéroulable et le mariage. Oui, ça, c'est... c'est un choix curieux. Bon, enfin bref, et comme tout amateur, hein, c'est très curieux, hein, ça questionne, comme on dit. Et bien, comme tout amateur de dilemmes, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, vous avez pris les deux exemples, mais oui, car seul le dilemme permet cela. Seul le dilemme permet d'identifier dans la vie les deux bonnes propositions qui s'offrent à nous. Mais le dilemme, c'est merveilleux. Quelle aubaine, quelle chance. Imaginez-vous un mariage où vous seriez d'avance, que vous n'avez pas le choix. Quelle tristesse. De la même façon, imaginez-vous un rouleau de papier toilette qui ne se déroulerait ni dans un sens, ni dans l'autre. Je vous prie de croire que vous y seriez encore, dans les toilettes comme dans la mairie. Enfin bon, bref. Car oui, c'est notre chance à tous que d'avoir le choix. Ainsi, quand un menu de midi vous propose fromage ou dessert, bah, il est bien évident qu'il faut prendre les deux. Et assurément, il faut lire le rouge de Stendhal, mais le noir aussi, je vous le recommande. Pareil pour le vin de table, rouge et rosé. Mais le dilemme est un sursaut de bienfaisance dans un monde qui s'ennuie. D'ailleurs, l'époque elle-même n'a-t-elle pas pactisé avec le dilemme? Car oui, aujourd'hui, on écoute la radio tout en regardant la télé. On fait des mails tout en regardant un film. On écoute de la musique tout en nageant dans une piscine. On téléphone en prenant le métro. On vieillit sans prendre de l'âge. On vote à gauche avec des idées de droite. On s'ennuie au milieu de tout le monde. Les dilemmes, c'est l'offre de tous les possibles. Dans le fond, voilà ce qui importe. Les priorités qu'on se fixe, il faut les accepter tous. Et c'est pourquoi on se doit à chacun, et vous en particulier, de savoir répondre à cette question, car dans le fond, c'est la seule qui importe, cette question. Donc, vaut-il mieux aller aux toilettes avant de se marier, plutôt que de faire ça.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est une question. Pourquoi employer le mot juste alors qu'on peut inventer, imaginer une superbe périphrase pour dire la même chose? C'est ce qu'on va faire. J'ai offert à Jacques Jouet, qui est le premier sur le banc des périphraseurs et qui sera suivi par Éval Massy, par Jean-Bernard Puy, je lui ai offert une jolie phrase qui était une phrase de circonstance. Alors j'ai cherché sur Internet un petit peu et je l'ai trouvée, cette phrase, à propos des anniversaires. Et on va jouer avec. Et donc cette phrase, eh bien, Jacques Jouet, dans cette phrase, il a choisi trois substantifs, il les a remplacés par des périphrases de son cru, il a passé son texte à Eva, qui a fait la même chose, mais à partir du texte de Jacques Jouet, et ainsi de suite avec Jean-Bernard Puy. Ce qui est arrivé à Patrick Béniz, c'est un très long texte, forcément, gonflé, enrichi de périphrases. A-t-il le même sens que la phrase de départ? Ça, c'est pas certain, c'est ce qu'on verra. Et on va tout de suite savoir quelle était la phrase du début, Jacques Jouet.
Les anniversaires ne valent que s'ils constituent des ponts jetés vers l'avenir.
C'est beau, non? C'est du Jacques Chirac. J'ai cherché anniversaire, c'est ce qui est sorti.
Bon, c'est...
Les anniversaires ne valent que s'ils constituent des ponts jetés vers l'avenir. Moi, c'est ce que je pense, parce que cet anniversaire des 30 ans, il nous projette vers les, disons, les 35 ans, par exemple.
Ça s'est frappé au coin du bon sens. On peut pas dire
absolument, absolument. Alors, vous n'aviez pas tellement le choix des substantifs.
Non.
Donc, vous les avez pris tous les trois.
Il y a trois substantifs dans la phrase, qui est déjà pas mal, d'ailleurs.
Oui. Mais... Alors, ça donne quoi?
Anniversaire. Là, je vous donne les
périphrases, vos périphrases.
C'est bien ça. Alors, l'anniversaire, date festive périodique à 12 mois, dont on finit toujours par avoir le regret.
C'est vrai, il y a toujours une pointe de nostalgie. Hein.
Oui.
Demain, on aura la nostalgie de nos 30 ans. Après.
Le pont. Mm-hmm. Trait d'union qui mène de la gauche à la droite et inversement.
On peut rien contester, hein.
Ben, essayez.
Et après?
Avenir, domaine de l'espoir quand il n'est pas bouché.
Alors, avant d'écouter vos périphrases à l'intérieur de la phrase de Jacques Chirac, que je rappelle, les anniversaires ne valent que s'ils constituent des ponts jetés vers l'avenir, je me tourne vers Patrick Beignet, qui n'a pas eu connaissance, évidemment, de cette phrase de départ. Est-ce que vous êtes arrivé à une chose proche ou pas du tout?
Relativement proche. La puissance de la pensée de Chirac est telle qu'elle est indestructible.
Je suis contente. Alors, Jacques Jouet, vous introduisez vos périphrases dans la phrase en jeu.
Les dates festives périodiques à 12 mois, dont on finit toujours par avoir le regret, ne valent que si elles constituent des traits d'union qui mènent de la gauche à la droite et inversement, traits d'union jetés vers le domaine de l'espoir quand il n'est pas bouché.
C'est bien, c'est encore clair, ça a du sens, c'est un joli texte. On ne peut pas dire le contraire. Alors, Eva Almassi, vous avez reçu ce texte, vous n'aviez pas pour mission de le comprendre.
J'ai même pas essayé.
Bon. Mais vous deviez l'enrichir à votre tour de périphrases.
Par contre, enrichir, c'est un réflexe chez moi.
Bon, enrichissez.
Donc, sans hésiter, oui. J'ai pris trois. Alors, pas forcément des substantifs, mais un groupe.
Groupe substantif.
Parce que date festive périodique, c'était difficile à couper.
Oui.
J'aurais triché en coupant. Oui. Et j'en ai fait, pensant à des fêtes nationales plutôt, j'en ai fait bornes peintes en rouge, autour desquels les serpents chers à Nietzsche se mordent la queue dans leurs éternels retours.
Pourquoi peint en rouge?
Parce que j'ai pensé aux fêtes nationales.
Ah!
Ils sont toujours en rouge, mais même Noël est en rouge, même Pâques est en rouge.
Ah, même Pâques.
Dans le calendrier.
D'accord. Alors, ensuite.
En tout cas, dans le mien. Dans le mien. Après, j'ai pris la gauche. Mais j'en ai pas fait une chose politique parce que j'ai pas songé à Chirac un seul instant.
Et vous n'aviez aucune raison.
Ni à
moins
Hollande,
que ce soit une préoccupation chez vous.
Non. Par contre, la gauche me fait parfois un petit peu peur. Donc j'en ai fait moitié d'une continuité, souvent ressentie comme néfaste, voire funeste, dès que le moindre chat noir y surgit. Parce que quand il traverse de gauche à droite devant moi, ma journée est foutue. Même quand c'est un jour férié. Après, j'ai pris l'espoir.
Toujours prendre l'espoir, oui.
Oui. Ensemble d'illusions, d'optiques tirant sur le vert, le rose ou le bleu. Parce que l'espoir est vert.
C'est la couleur de l'espérance.
On peut regarder à travers des lunettes roses ou alors voir l'horizon toujours en bleu. J'aurais volontiers ajouté doré parce que j'espère toujours que les lendemains vont... Ben voilà. J'ai pas voulu compliquer la tâche de Patrick.
Ah, c'est sympa, sympa.
Et ça donne. Les bornes peintes en rouge, autour desquelles les serpents chers à Nietzsche se mordent la queue dans leurs éternels retours à 12 mois, dont on finit toujours par avoir le regret, ne valent que si elles constituent des traits d'union qui mènent de la moitié d'une continuité souvent ressentie comme néfaste, voire funeste, dès que le moindre chat noir y surgit, à la droite et inversement, trait d'union jeté vers le domaine d'un ensemble d'illusions d'optique tirant sur le vert, le rose ou le bleu quand il n'est pas bouché.
Je ne sais pas s'il y a eu déperdition de sens, mais on va rappeler la phrase de Jacques Chirac. Les anniversaires ne valent que s'ils constituent des ponts jetés vers l'avenir. Je trouve que la pensée chiracienne est enjolivée, gonflée. Jean-Bernard Pouy, vous avez reçu le texte d'Eva.
C'est déjà pas mal, hein, parce que
bon. Oui.
Alors j'ai pris serpent, créature phobique qui ne donne pas la patte et à qui l'on ne peut pas serrer la main.
C'est
Après,
vrai.
Après, j'ai pris chat noir. Réincarnation poilue de la mauvaise conscience, chère à Chardin et Manet. Parce que je savais qu'il y avait l'autre derrière, donc je lui ai mis des peintres. Et bleu, teinte de l'infini, transparence éthérée, qui parfois, dans sa profondeur obscure, s'approche de la Prusse.
Ah, évidemment, le bleu de Prusse. Ça va donner un joli texte, je sens.
Ah, il est beau. Les bornes peintes en rouge autour desquelles les créatures phobiques qui ne donnent pas la patte et à qui on ne peut pas serrer la main, chères à Nietzsche, se mordent la queue dans leurs éternels retours à 12 mois, dont on finit toujours par avoir le regret. Elles ne valent que si elles constituent des traits d'union qui mènent de la moitié d'une continuité souvent ressentie comme néfaste, voire funeste dès que la moindre réincarnation poilue de la mauvaise conscience, chère à Chardin et Manet, y surgit à la droite et inversement. Trait d'union jeté vers le domaine d'un ensemble d'illusions d'optique tirant sur le vert, le rose ou la teinte de l'infini, transparence éthérée qui parfois, dans sa profondeur obscure, s'approche de la Prusse. Quand elle n'est pas bouchée. Ah.
Je pense que Jacques Jouet doit être assez touché de ce que son « quand elle n'est pas bouchée » est resté.
Ah ben, ça risque de rester jusqu'au bout, en plus.
J'ai l'impression. Alors, Patrick Beignet, donc, vous n'aviez pas connaissance du début ni de l'évolution. Vous avez empoigné ce texte, vous saviez qu'il venait de Jean-Bernard Puy, et vous aviez pour mission de décortiquer ces phrases pour essayer de retrouver la phrase du début.
Oui, je m'y suis employé.
Allez, racontez-nous.
Eh bien... ça s'est finalement pas trop mal passé, à en juger par le résultat, enfin vous allez voir. Encore que j'ai beaucoup peiné sur les bornes peintes en rouge.
C'était alors, le côté difficile,
pour,
oui.
Pour éclairer les bornes peintes en rouge, j'ai commencé par me demander qui étaient ces créatures phobiques qui ne donnent pas la patte et à qui on ne peut pas serrer la main.
Oui.
Comme il y avait Nietzsche qui suivait, que Nietzsche a, vous savez, eu des rapports assez intenses avec Wagner... J'ai d'abord pensé que c'était les Wagneriens, mais après réflexion, j'ai constaté que les Wagneriens, généralement, ont des mains. Donc, c'était pas eux. J'ai essayé les phoques, ensuite,
ouais.
Qui sont déjà plus proches du serpent, mais bon, ça n'a pas conduit à grand-chose. Et finalement, je me suis arrêté aux bébés. Les bébés n'ont pas vraiment de mains. On peut pas serrer la main d'un bébé. Mais non, on peut leur donner le doigt...
Oui, il sert un doigt, voilà, oui. Hein. C'est vrai.
Donc, voilà. Et le bébé est par nature une créature phobique, c'est pas la peine
d'y
insister. Alors, j'ai pensé à un moment conjuguer les choses avec des bébés phoques, hein. Éventuellement des bébés phoques wagnériens, ça m'aurait donné une belle cohérence, mais je m'en suis sobrement tenu au bébé pour ces créatures phobiques. Alors, il est évident que l'anniversaire du bébé est toujours... un moment extrêmement intense, pas tellement pour lui, mais pour la famille autour de lui. Donc, les éternels retours à 12 mois, dont on finit par toujours avoir le regret, bon, c'est évidemment les anniversaires.
Mais reste... bravo, quand même. Ouais, attendez, ouais. Il a retrouvé le mot essentiel du texte. Ouais, ouais. Bah oui.
Mais
trop fort.
Votre surprise me déçoit. restez les bornes peintes en rouge.
Ouais.
Et je me suis dit que ce sont les bougies sur les gâteaux d'anniversaire qui sont généralement rouges. Hein. Ne me dites pas qu'il y en a des jaunes, des verts, etc. Non, elles sont en majorité, comme les fêtes nationales, elles sont rouges. Donc, voilà, je crois éclairer la première phrase.
Ah bah oui, transparent, oui. Voilà. Après.
D'abord, je constaterai qu'il ment. Il n'y a pas de verbe principal dans le premier paragraphe. Hein. J'ai dû bravement faire sans. C'était assez compliqué. Alors, lorsque commence la deuxième phrase, « Elles ne valent que si elles constituent des traits d'union », on se demande à quoi renvoie le « elle ». Est-ce que ce sont les créatures phobiques ou les bornes,
hein?
Ça a été un long sujet de réflexion. Et j'ai conclu que c'était les bornes peintes en rouge, autrement dit, les bougies.
Hein?
C'est-à-dire,
ouais.
Par métonymie, les gâteaux et les anniversaires. Donc...
progresse.
On arrive en pleine logique, c'est du bon sens simplement ce que je vous dis là. Hein. Les anniversaires, ce sont des faits qui instituent la continuité, hein, le passage de droite à gauche, à la représentation habituelle du temps. C'est exactement comme ça que ça a progressé.
Ça s'est dit, oui, avec Eva. Oui,
oui. Oui. Et donc, les anniversaires...
Il y a un passage difficile, là.
Non, les anniversaires n'ont de sens que s'ils soulignent la continuité du temps et de la vie. Mais il faut aussi, il ne faut pas que l'anniversaire mise entièrement sur l'avenir, là, je ne suis pas d'accord avec vous, Françoise, hein, c'est aussi un retour sur le passé. Donc,
bien sûr.
De droite à gauche, mais aussi inversement, comme le disait le texte. reste, alors là, je vous l'accorde, j'ai eu du mal, cette histoire de réincarnation poilue de la mauvaise conscience, chère à Chardin et Manet. Chardin et Manet, j'étais sans illusion, je savais que c'était l'autre, comme il dit, qui m'avait tendu cette double perche, qui était un double piège. Mais j'ai joué le jeu, hein, c'est bien la règle, précisément, et je me suis dit que la réincarnation poilue de la mauvaise conscience pour Chardin et Manet, c'est le pinceau. Le pinceau qui leur permet de créer leur œuvre. Et comme ce sont, entre autres choses, mais ce sont de façon importante des portraitistes, Chardin et Manet, on sait qu'avec le pinceau, ils tentent d'arrêter le temps. Avec les portraits, ils tentent d'arrêter le temps. Donc, ils essaient de jouer contre la continuité du temps, de la droite à la gauche, vous vous souvenez ?
Non, on vous suit, hein, Patrick.
Nous arrivons à la troisième phrase, troisième et heureusement à la dernière. Ces traits d'union, jetés vers le domaine d'un ensemble d'illusions d'optique tirant sur le vert, le rose ou la teinte de l'infini. Alors là, très bizarrement, j'ai jamais eu le moindre problème avec cette phrase. Tout de suite, pour moi, ça a signifié l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui se déploie sur un fond, le ciel bleu, en principe, oui. Le bleu de Prusse, qui renvoyait aussi sourdement à Nietzsche, hein, qui est prussien, comme vous savez. Là, il y avait un piège que j'ai tenté de surmonter. Et évidemment, tout ça fonctionne, sauf quand le ciel est bouché. Donc, en somme, les anniversaires, les bougies sur les gâteaux d'anniversaire, sont de véritables arcs-en-ciel qui créent des liens entre notre passé et notre avenir, entre la gauche et la droite, et qui nous permettent de construire notre existence.
Oui, donc on arrive à une phrase.
Hein. L'anniversaire des bébés doit être célébré comme un signe de continuité et non de rupture, comme un arc-en-ciel de la vie familiale.
Oh. Et qui aurait pu dire ça ? Qui pourrait dire ça ?
À mon avis, c'est Françoise Dolto.
Ben, je trouve que de Chirac à Dolto, il y a tout un parcours. Bravo, Patrick. C'était pas facile. Hein. Les sardines chantent traîner l'héritage infernal. Musique, Gabriel.
Un héritage dans la rue des Trois Mages, un vieux marchand de fromage était mort sans enfant. Ses voisins, ses voisines, ses cousins, ses cousines, au fond d'une cuisine, se partageaient gaiement la table de son père, la montre de son frère, le fauteuil de sa mère, la pendule à coucou, une paire de bretelles, une bouteille d'eau de Vittel et une coiffe en dentelle qu'il se mettait au cou. Il arriva de Chine sur une vieille machine, un homme courbant les chines et qui leur dit:
messieurs, ne dites pas qui est-ce, je suis le cousin de la nièce de l'homme qu'on met en pièces, et pour cela je veux.
Qu'est-ce que vous voulez?
Vous? La table de son père,
la montre de son frère, le fauteuil de sa mère, la pendule à coucou,
coucou,
la vieille paire de bretelles, la bouteille d'eau de Vittel et la coiffe en dentelle qu'il se mettait au cou.
Il arriva
de Prague un personnage très vague qui portait une bague et qui leur dit:
messieurs, ma grand-mère Volage, fauta dans son jeune âge, a vu le marchand de fromage. Et c'est pour ça que je veux...
La table de son père, la montre de son frère, le fauteuil de sa mère, la pendule, la coupe, la vieille verre de bretelle, la bouteille d'eau de Vittel et la coiffe en dentelle qu'il se mettait au cou. Ce fut le diable à quatre. Les hommes voulurent se battre. Les femmes devant l'âtre, les femmes appelaient police, secours, police, secours.
En cas de noyade, faites le sec.
Commencement d'incendie, et presque épidémie, collective folie, et tout ça court.
En cas de bémol, faites le dièse.
Allô?
Je suis le cousin de la nièce.
Du marchand de fromage?
De l'homme qu'on met en pièces.
Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, vous, alors?
Je veux...
Une pendule en dentelle,
une coiffe d'eau de vitelle,
un fauteuil à bretelles,
une table à coucou.
Histoire lamentable de fauteuil détestable qu'un voisin instable va raconter chez nous.
Histoire lamentable de fauteuil détestable qu'un voisin instable va raconter chez nous.
Lamentable.
On va jouer à état de choses. Qu'est-ce que c'est que état de choses ? C'est un objet qui se raconte à la première personne du singulier, au jeu donc, et qu'il dit ses rêves, ses pensées, ses déboires, ses jours heureux, ses jours flamboyants, et quand il arrive en fin de carrière, ses jours gris juste avant le grand conteneur. C'est ça, Gérard Mordilla. Parfois la vie d'un objet est douloureuse, mais il y a des moments flamboyants.
Certainement, je vais vous conter quasiment une tragédie, mais une tragédie flamboyante.
Et c'est la tragédie de qui ?
C'est la tragédie d'un slip.
Pardon ? Qu'est-ce que vous avez dit ?
La tragédie d'un slip qui s'appelle Slip Story. Ça
ah
dit
ouais.
tout.
Ah ouais, c'est le vôtre ?
Je resterai discret. Vous connaissez sans doute la remarque de Jean-Luc Godard, le cinéaste, à propos des vieux films. Pourquoi, dit-on, à propos des œuvres de John Ford, de Fritz Lang ou de Roberto Rossellini, que ce sont des vieux films ? Est-ce qu'on dit à propos des toiles de Rembrandt, de Michel-Ange ou du Titien que ce sont de vieilles peintures ? Non, bien sûr. Alors, je vous demande, pourquoi et au nom de quoi me traite-t-on de vieux slip sous prétexte que je suis passé à la machine à laver plus souvent qu'à mon tour ? Je ne suis pas vieux, je suis un slip d'expérience, un nuage en pantalon, doux et confortable, un vrai pro qui en a vu des vertes et des pas mûres. Ah, si je voulais, je pourrais en raconter des choses, mais je n'ai jamais brisé mon vœu de silence. Alors, motus et slip cousu. N'empêche, je sais bien ce qui se trame contre moi. Au nom du jeunisme à la mode, on veut me coller un PSA sur l'étiquette. Un plan pour aller slipper ailleurs. C'est comme ça que disent les slipocrates aujourd'hui, pour chasser les seniors hors de la commode. L'âge est un argument trop facile. Un slip vieilli en fut. C'est un slip qui a de la bouteille. C'est au sous-vêtement ce que le Romané Conti est au grand cru. Un velours de l'entrejambe. Alors, bien sûr, j'ai changé. Je suis légèrement teint en mauve. Mais je suis moins stressé maintenant qu'à mes débuts. Plus détendu, cool, pépère. Mon histoire parle pour moi. Papa était caleçon, maman chemise de nuit. Je peux dire que j'ai passé mon enfance dans du coton. Pour mes études, j'avais le choix entre faire les nages, l'école qui forme les hauts fonctionnels, les Marcel, les t-shirts, etc., ou à chaussettes, pour la perspective d'emploi et de rémunération est double. Hélas, je m'y suis pris comme un pied et j'ai été recalé. Finalement, ça a été un mal pour un bien. Je suis parti en Eraslip faire un stage à l'étranger. D'abord en Australie, où j'ai fait kangourou. Puis en Angleterre, comme petit bateau. Pour un slip, quel bonheur de faire du sloop dans la Manche et jusqu'à l'île de Wight. Quand je suis rentré, j'ai intégré la commode sans problème, et c'est là que j'ai fait toute ma carrière, et je travaille encore. Attention, aujourd'hui, mon emploi est menacé par les synthétiques, des jaunes qui ne tiennent même pas deux lessives à 40 degrés, et les jeunes slips qui veulent faire que le string minimum. Mais je ne vais pas me laisser faire. Tous les jours, pour m'entretenir l'élastique et raffermir ma voilure, je fais mes exercices. Ah, il faut de la condition physique pour tenir le coup, si vous permettez l'expression. Habillage, déshabillage, lessive, séchage, pliage. La vie de slip, c'est le parcours du combattant, sans parler des cascades, quand on vous lance un peu n'importe où, sans savoir si vous allez tomber sur un fauteuil, le parquet, ou même, ça m'est arrivé, vous accrocher au lustre. Je sais qu'à la moindre faiblesse, si je baisse les bras et que je lui tombe au genou, catastrophe. C'est arrivé à un collègue, une vedette de la profession, qui avait tourné avec Humphrey Bogart dans The Big Sleep. Et aussi avec Gérard Jugnot dans Pinot Simple Sleep. Eh bien, avant même d'avoir compris ce qui lui arrivait, il s'est retrouvé comme chiffon à chaussures dans la boîte à cirage. Et je ne parle pas d'une culotte de mes amis, la créatrice de mon beau satin à la radio, qui végète maintenant dans le cartable d'une fille où elle fait torchon à pinceau les jours où les mômes ont de la peinture. La honte, la déchéance pour ces deux artistes qui n'ont démérité en rien et ont toujours tenu ce qu'ils s'étaient engagés à tenir. Comme le disait si bien son éminence, le pape des slips, les fondements de notre société reposent sur des vieux slips. Or, ils sont désormais une espèce menacée, des chefs-d'œuvre en péril, à l'instar des slips à la mode de Caen. Sauvons-les, je vous le demande, sauvons-les du tri sélectif. Faisons la révolution sans culotte, mais pas sans slip. Parce que je vous préviens, sans slip, sans moi, c'est bien slimp, ce sera la débandade.
Violaine Schwartz, j'ose à peine vous poser la question. Vous êtes quelqu'un dans la vie du slip de Gérard ? Ça, oui, je sais. Ça...
Je suis Jean-Luc Godard.
Ah, lui-même. Et alors, il a eu connaissance du message ?
Mm-hmm.
Et il répond au slip ?
Voilà, voilà. Je vous salue, vieux slip. Vous savez, les titres de mes films s'imposent à moi comme une évidence. J'ai déjà réalisé... « Je vous salue Marie » en 1985, « Je vous salue Sarajevo » en 1993. Il me manquait un troisième volet pour conclure ma trilogie. Et tout à coup, en vous entendant, ça m'est apparu. « Je vous salue vieux slip, bien sûr !» Une coproduction franco-slip, franco-suisse comme toujours. Une fable sur la vieillesse du monde et des révolutions. Car comme vous le dites si bien... Et cette phrase reviendra en boucle tout au long de mon film. Les fondements de notre société reposent sur des vieux slips. Sur des très vieux slips, en effet. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part répéter en boucle « Qu'est-ce que je peux faire ?»« Je sais pas quoi faire. » Du cinéma, bien sûr. C'est la seule solution pour tenir le coup et rigoler, malgré tout, du désastre ambiant planétaire. Faut faire bande à part. Cher slip, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Faut vivre sa vie en 3D. Allier Fritz Lang et la série B, les dieux grecs et les petites culottes. Faut filmer l'invisible, oser ce qu'on ne connaît pas. Et qui a déjà entendu parler des états d'âme d'un slip kangourou hors d'âge ? Personne. Je vais faire un film sur vous, sur les lambeaux de votre révolution invisible, petit soldat. Sur vous et sur les vieilles culottes qui vous entourent, les carabiniers de la commode. Si vous ne filmez que le visible, c'est un téléfilm que vous faites. Et la télévision fabrique de l'oubli, alors que le cinéma fabrique des souvenirs.
Le slip aussi.
Ce sera un film sur la vieillesse du cinéma qui n'est finalement que du temps qui passe. Un film sur les souvenirs d'un vieux slip, comme moi. Car je ne suis plus très nouvelle vague, à vrai dire, un peu à bout de souffle. Quoique toujours dans le vent, finalement. Sauf qui peut, la vie. Grâce à vous, je me rends compte que je suis devenue un classique. On me cite à tout bout de champ. J'ai même des émules au fin fond des armoires, je suis donc loin d'être au tiroir. Voilà qui me ravit. Je filmerai les petites culottes en train d'annonner en chœur « Dégueulasse ». Qu'est-ce que ça veut dire, dégueulasse? Je ferai un grand mélo autour de la chaussette orpheline qu'a perdu sa jumelle, la pauvre, et qui se désole de ne plus servir à rien, rouler en boule dans un coin. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Je ferai un remake du mépris, avec le soutien-gorge à balconnet de la Bardot, qui remplacera la vraie, tout alangui et platiné au beau milieu du tiroir. Et mes armatures, tu les aimes? Et mon galbe, tu le trouves joli, tu l'aimes? Et mon coussinet, tu le vois dans la glace, mon coussinet, tu l'aimes aussi? Et mes bretelles, tu les aimes mes bretelles? Qu'est-ce que tu préfères, ma bretelle droite ou ma bretelle gauche? Ça fera craquer tous les caleçons du monde. Je vais racler mes fonds de tiroir, cher slip. Et je vais vous redonner une seconde vie, une seconde chance. Je ne vous laisserai pas finir chiffon dans la boîte à cirage. Je vais vous remettre sur le devant de la scène, en pleine lumière. J'ai réalisé il y a longtemps un film qui s'appelait « Une femme est une femme ». On fera ensemble « Un slip est un slip », à l'image de notre époque. Ou « Slip pour le fou », ce sera magnifique. Car vous savez, je suis encore en grande forme. Je soigne moi droite, comme on dit. Et quand j'en vois, ça calbute sévère, mon cher slip. Faites-moi confiance, on va se faire des couilles en or.
Un joli dimanche avec Lucas Fournier et tout le monde d'ailleurs, parce qu'on va tous chanter en chœur. Devant ceux qui savent chanter, un peu en retrait les autres.
Hommage à Édith Piaf.
La vie en rose, c'est le joli dimanche de la vie en rose.
Des jours qu'il faut bosser pour rien, une vie qui se perd dans la loose. Voilà le portrait plein de blues de mon petit train-train quotidien. Quand arrive le dimanche, alors j'ai ma revanche. Je me peins les ongles en rose. Je me prépare à l'amour pour être reine d'un jour, pour être panthère rose. Je rentre chez le coiffeur, je mets des robes à fleurs, je me métamorphose. Il est gentil, tout joli mon dimanche. Il me réjouit, me séduit mon dimanche. Et dès que c'est samedi, alors moi samedi, j'ai le cœur qui bat. Tout le matin pouvoir dormir avec le cœur qui se délasse, et puis danser pleine de grâce et croire enfin en l'avenir. Quand arrive le dimanche, alors j'ai carte blanche, je me peins les ongles en rose, je me prépare à l'amour, c'est pas comme tous les jours, pour faire comme Katmos, je me passe au fond du cœur, plein de films, plein de bonheur, comme une apothéose. Il est gentil, tout joli mon dimanche. Il me réjouit, me séduit mon dimanche. Et dès que c'est samedi, alors moi, samedi, j'ai le cœur qui bat.
Les Papous ont 30 ans en public à la Maison de la Radio. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressart, équipe technique et de réalisation, Anne de Pelchin, Pierre Mine, Patrice Klein, Benjamin Perru, chargé de production Roland Dandalex. Un anniversaire à télécharger sur franceculture.fr pendant un an, à retrouver pour une nouvelle écoute sur votre ordi à la page des Papous du jour, page sur laquelle vous pouvez poster vos impressions, remarques, questions à la rubrique commentaires. Vous pouvez aussi regarder les vidéos, les photos de cette journée anniversaire de nos 30 ans sur notre site et sur la page Facebook des Papous où nous vous attendons entre amis. Et comme cette fête s'est déroulée en deux récrés, deux fois deux heures, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure, 12h45, pour reprendre le fil de ce joli dimanche passé à jouer au studio 104 de la Maison de la Radio. Au revoir, je vous laisse en compagnie de Catherine Libert, qui nous raconte France Culture Papier.